もしもし。
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 Bonjour et bienvenue sur Grand Écran, et avec cette introduction tout en musique métallique, on va dire, en cette introduction très, très industrielle, c'est la bande-annonce de notre sujet d'aujourd'hui, et pas n'importe lequel. C'est un film que je qualifierais de presque quasi Madeleine de Proust à mes débuts de recherche de cinéphilie extrême et absolue, car comme tout bon cinéphile, quand on a envie de chercher, on creuse un peu vers le fond, le côté underground, et on tombe toujours sur un nom qui vient à chaque fois, c'est Tsukamoto avec son film Tetsuo. Et donc on va parler de ce film, qui est d'ailleurs ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à un gros coffret Carlotta, en sortie bien comme il faut, numérique et de très belles factures, comme je le dirais dans le sud, n'est-ce pas Sébastien?
Tout à fait, voilà. L'accent, on peut le lâcher ou
On va le lâcher.
On va garder toute l'émission.
Là, ok, très bien. Pour parler de Tetsuo,
règle.
On parle de, comme dans le sud. Très bien. Ravi de parler Tetsuo, bien sûr, et big up à Carlotta, qui nous fait encore une fois...
Des dingueries. Non, c'est un film qui est vraiment, je trouve, assez charnier. On va en expliquer pourquoi ce petit film de 1989, qui est pourtant parti de rien, de nulle part, avec un seul réalisateur. T'inquiète pas Joe, je viens vers toi, je voulais faire une autre introduction, mais c'est pas grave Joe. Salut Joe, comment tu vas?
Ça va plus du coup. Je crois que je suis trop ici.
Non, je voulais revenir notamment sur le fait de faire un film quand même complètement incroyable, avec si peu de moyens, et finalement avoir une aura assez démentielle, et notamment, donc je voulais que tu interviennes juste après, mais c'est pas grave.
Je veux dire exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire big up à Carlotta, parce que moi j'ai découvert le film par l'intermédiaire de ce coffret. Contrairement à vous, je l'avais pas vu plus jeune, alors que c'est quand même déjà un film qui revenait, qui était une référence, mais j'étais toujours passé à côté. Et le découvrir grâce à ce coffret, c'était quand même assez incroyable, et c'est bravo à Carlotta quoi. Qui
une restauration de très grande qualité.
Oui, et pas seulement ce film là ils ont fait donc un coffret sur on va dire une bonne partie de sa filmographie, notamment on retrouve donc également le Tetsuo 2, Bullet Ballet, Tokyo Fist, Vital et j'en passe. Alors pour revenir forcément sur ce film Tetsuo, il faut quand même revenir également sur le réalisateur, donc Shinya Tsukamoto. Donc il est né le 1er janvier 1960 à Tokyo. Donc réalisateur japonais, né à Tokyo, a longtemps vécu à Tokyo, et il faut le dire, en fait, il a commencé en fait sa carrière très très jeune grâce à un cadeau de son père, c'était donc une caméra 8mm. Alors, pour la petite histoire, donc dès ses 14 ans, il va se passionner pour la réalisation, et de manière naturelle, il va réaliser donc ses premiers courts-métrages professionnels dans les années 80. Il faut le savoir, c'est qu'en fait, il a également été, durant ses études, en fait, il a également monté une troupe de théâtre. Notamment avec plusieurs de ses amis, donc Kei Fujiwara, Nobakuna Kanakata, pardon, et Tomorrow Taguchi, donc l'acteur principal de Tetsuo. Leur première production, notamment, c'est donc Les Aventures de Electric Road Boy. Ouais. C'était donc une petite pièce de théâtre à la base. Et ils ont utilisé en fait tout un set de construction pour faire un film, enfin pour faire cette histoire-là, qui va en fait finalement devenir également un court-métrage. Et donc ça montrait aussi une des inspirations de Tsukamoto, notamment parce qu'il va l'être un petit peu plus tard également, sur ce qu'on appelle les films de monstres, les films films de Kaiju.
C'est quasiment le brouillon de Tetsuo, ce film Les Aventures. Il est un peu
c'est
plus
un
court
des que... premiers brouillons.
Ouais, il est un peu plus court, il fait quoi, 10-15 minutes de moins que Tetsuo. Mais il fait quand même, ouais, il fait quand même 50 minutes, un truc comme ça. Et après, il est en couleur, il y a moins de moyens, mais je pense qu'au niveau des thèmes et tout ça, c'était pour lui. Et puis le film a eu un petit prix et tout. Enfin voilà, il a quand même, c'était amateur, mais il a quand même eu son petit. Il a été quand même un petit peu vu, même si c'était évidemment dans le domaine du underground. Et par contre, je tiens à signaler le nom de cette troupe de théâtre, c'est quand même pas mal. C'est Kaiju, il a fait une troupe de théâtre où la forme de je sais pas si t'as vu la photo, la forme de la salle de théâtre, c'est un Godzilla. C'est ça, il y a une tête en haut comme ça. Et je pense que c'était intéressant. Je pense aussi que tu vas parler peut-être aussi de ce qu'il faisait à côté, c'est-à-dire dans la pub.
Oui, il a travaillé également dans la publicité, il faisait du montage, il a tout fait en fait. Tsukamoto, c'est quelqu'un qui a bossé sur, on va dire, quasiment tous les métiers possibles et imaginables, en tout cas dans cette période-là, sur le milieu en fait de la vidéo. Donc il a été réalisateur, il a été monteur, il a été scénariste, il a été également designer, il a travaillé sur des décors. Donc c'est quelqu'un de très complet et de très indépendant en fait.
Et de touche à tout.
Et donc c'est pas forcément du coup étonnant de le voir plus tard faire un film totalement DIY comme l'est donc Tetsuo. Alors donc, comme je disais, en fait, les aventures d'Electric Road Boy, donc, qui sert de terreau en fait à sa carrière, les décors ont carrément été réutilisés, et surtout, en fait, on retrouve quelques éléments qui vont, par la suite, être très stylistiques dans ces films, donc notamment les montages subliminaux, le rythme un peu effréné, la violence, et aussi le cadre de la banlieue métropolitaine japonaise.
Et l'aliénation qui en découle.
Qui en découle, voilà.
Ouais, mais c'est intéressant en fait tout ça, toute cette première partie, parce que ça raconte déjà très bien en long comment il va travailler sur la suite de ses films et dont Tetsuo. C'est-à-dire que Tsukamoto, on est sur quelqu'un qui, comme je disais, est très touche à tout. Donc rapidement dans ses films, il va être amené à faire tout un peu lui-même.
Il y a qu'à voir les crédits
il y a son nom.
Il y a son nom très souvent.
Voilà. Pas autant qu'un Kojima, mais on est pas loin, tu vois. Mais sauf que Kojima, il a 500 mecs derrière. Mais bon, ça c'est encore autre chose.
Lui, à la fin de ses films, il y a plus personne derrière. Tous les techniciens l'abandonnent au fur et à mesure du film.
Mais je crois avoir vu quand même que Tetsuo, il me semble, c'est le premier film où il a demandé un assistant réal avec lui.
Il a une équipe.
Il
avait une équipe aussi pour les cours, etc. Très petite, mais je veux dire.
Là, il y avait vraiment un tournage, il y avait un petit peu d'argent, il y a même un acteur connu. Je pense que c'était son premier film professionnel, qu'on peut dire quand même.
C'est ça.
En fait, ce qui est. Non, parce que Tetsuo le considère comme le premier film de Tsukamoto, mais c'est absolument pas vrai. C'est le premier film qui a été distribué commercialement, de Tsukamoto. Avant, il a quand même un paquet de courts-métrages et même de moyens-métrages qu'il a réalisé avec plus ou moins une grosse. Enfin, il n'y a jamais eu de grosse équipe sur les films de Tsukamoto de cette époque, mais en tout cas, suffisamment pour que lui, les acteurs et puis deux, trois techniciens qui l'accompagnent. Mais Tetsuo est le premier film distribué commercialement, qui commence à se faire un nom en étant projeté dans le festival du film fantastique de Rome de l'époque et voilà, du coup ça commence à des gens qui l'ont vu commencent vraiment à parler de cette curiosité de ce film qui ressemble pas à quelque chose qu'on a vu avant etc. Mais alors là où t'as pas tort, c'est que la fin du film, il va la faire tout seul quoi.
Pour revenir un petit peu dans le contexte, en fait on est dans le milieu des années 80 à la base, donc comme on disait, Tsukamoto a accumulé une grosse expérience. Il a été donc réalisateur, chef opérateur, monteur, éclairagiste, créateur d'effets spéciaux. Mais, comme on l'a dit juste avant aussi, il reste toujours cependant inconnu. C'est vraiment un homme de l'ombre. Et en fait, avec cette idée de projet de Tetsuo, en fait, qui est en fait, on va dire, une des prolongations en fait de ses précédents courts-métrages. Mais cette fois-ci, il va tourner avec un budget un peu plus conséquent. Il va donc en 16 mm en noir et blanc, et chose qu'il ne faisait pas auparavant. Et c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose en fait, qui va finalement devenir, ce qu'on peut le dire, le film étendard de sa carrière. C'est son tout premier long-métrage. C'est un film qui est forcément une référence, on va dire, de l'horreur et du cyberpunk à la japonaise. Ça a été financé de sa poche, il faut quand même le signaler. Il a été tourné donc pendant 18 mois. C'était assez épuisant. Il en ressort totalement épuisé mentalement et physiquement.
Et pas que lui d'ailleurs.
Ouais, pas que lui. C'était un film qui a été très complexe à faire. C'est des longues journées à faire des tours dans des décharges pour reprendre des vieux morceaux de métal, d'en faire du décor, en faire la création du monstre aussi que l'on voit dans le film. Donc c'est quelque chose de très éreintant pour cet homme-là. Et en fait, il va avoir la chance donc de pouvoir passer, donc, notamment comme tu disais, à Rome, et donc de donner, en fait, on va dire, un vrai écho au niveau international de sa carrière.
Il casse un peu la baraque là-bas, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui le voient.
Il reçoit le premier prix.
Voilà, donc c'est. Je pense que lui s'y attendait pas du tout, du tout. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, dans une interview, il dit que ça, c'était ce prix, et puis le fait que mondialement, il y a un petit écho, enfin que ce soit pas juste au Japon, c'était sa licence pour avoir le droit d'être réalisateur, dans le sens, voilà, il se sentait pouvoir assumer le fait de dire, parce que être réalisateur pour lui, quand on n'en avait pas parlé dans sa jeunesse, mais c'était compliqué avec ses parents, notamment son père, qui voyait ça d'un mauvais œil, et notamment qui quitte la publicité pour arrêter de travailler dans la publicité sans avoir de perspective claire.
Faire de la fiction auto-produite. Voilà.
Et donc, en fait, il y avait quand même une nécessité de réussir sur ce projet-là.
Ouais.
Parce que du coup, et dans l'interview, il dit avec ce prix et ce film, du coup, mes parents étaient plus silencieux.
Alors attention, il faut quand même le signaler. Donc le Grand Prix du Festival de Films Fantastiques de Rome, il faut quand même le nuancer. C'était donc en 88. Il n'avait pas... c'était pas encore c'est pas un gros festival non plus.
Non, bien sûr.
Mais
non,
ça montrait en fait que...
C'est un film underground, quoi. Voilà. Donc, c'est...
En fait, c'était déjà un réalisateur de niche à l'époque, disons qu'il est devenu un réalisateur de niche international à partir de Rome. C'est-à-dire que les gens du monde entier ont commencé à connaître.
Et surtout, pour la petite anecdote, ce film a été présenté donc à Rome en une seule projection et sans sous-titres.
Oui.
Voilà.
Bon, pas tellement besoin.
Après, il n'y a pas besoin quand même, mais il fallait quand même le signaler, quoi.
Mais enfin, voilà, c'est quand même, ça reste un public de niche, c'est-à-dire c'est quand même des personnes qui allaient voir, c'est un public qui est underground aussi,
public de festival.
Voilà.
Chaque festival, il y a une perle, il y a un truc, ça veut pas dire qu'ils vont parler au JT le lendemain, c'est juste les connaisseurs, les gens du métier vont avoir ce nom qui va commencer à pouvoir revenir, quoi.
Et c'est un nom qui commencera à se faire parler de lui par tous les amateurs de ce genre-là, quoi. Sortie cassette en Angleterre, surtout, qui était quand même le pays dans lequel on pouvait choper ces vidéos-là avant de les avoir en France, parce que la sortie de Tetsuo en France est bien plus tard que sa sortie au Japon, et même en Angleterre. Il me semble que c'est les années 90.
Il faut pas l'oublier, c'est qu'en fait, ça met du temps à sortir, certains films comme ça. Les films de niche, en fait, mettent beaucoup de temps. On a maintenant, forcément, que la culture d'Internet, la culture de l'instant, mais à cette époque-là, non, c'était très long. En France, c'est en 92 qu'il est sorti.
Donc, voilà, 92. Donc,
grâce à Canal+.
Grâce à Canal+. Mais avant, c'était quand même l'Angleterre où il fallait te choper, qu'il y avait plus vite avant les VHS. On va juste rajouter une recontextualisation de quand s'est fait Tetsuo et Tsukamoto, c'est-à-dire qu'on est à un moment du cinéma japonais où les grandes majors commencent à être un peu en crise, quoi. C'est un peu la merde économiquement. On a même un grand studio, alors je sais plus son nom, mais un grand studio nippon qui est pourtant, avec toute l'histoire et toute la renommée qu'il a, en vient même à faire des films érotiques un peu carrément érotique pour équilibrer ses caisses, quoi. Voilà. Et parce qu'il y a de plus en plus un conflit, en fait, entre les grandes productions de major et le cinéma plus pas d'auteur, c'est pas ça,
indépendant
en tout cas, qui commence de plus en plus à être une concurrence très très sérieuse au cinéma des grandes majors, quoi. Et du coup, Tsukamoto arrive à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que c'est le mec qui, même après, va vraiment tout faire soi-même et va avoir une liberté totale dans la création de son film et notamment de Tetsuo à ce moment-là, quoi. Il l'a écrit, il l'a réalisé, il va le monter parce qu'il sera le dernier rescapé de ce tournage.
Voilà, c'est exactement mort parce que ce sera lui tout seul à la fin au montage en plus.
Il va jouer dedans et dans d'autres de ses films aussi un rôle parce qu'il vient du théâtre, qu'il connaît aussi l'actorat, etc. Mm-hmm. Mais en tout cas, voilà, il sait parfaitement, le projet vient de lui, c'est parfaitement, il n'a pas du tout, il doit chercher de l'argent, mais il n'a pas du tout à négocier tous les jours avec des producteurs pour essayer d'avoir le budget. Non, il se démerde et s'il lui laisse liberté totale pour ce qu'il a à faire.
Et cette liberté, eh ben, on la voit quand on va parler du film, bien évidemment. C'est un film que je dirais à la puissance fusionnelle, parce que Tetsuo, en fait, est souvent considéré en fait, comme l'œuvre fondatrice de la mouvance cyberpunk au Japon. Je dis bien au Japon. William Gibson dira de lui-même en fait, que Tetsuo est le premier vrai film cyberpunk. À la fois, donc, surtout, on retrouve donc les thématiques de la fusion du corps et de l'objet, l'élément plus qu'essentiel au body horror, auquel Tsukamoto, forcément, rentre un plein tube avec ses gros plans dès le début du film. Je vais nuancer un truc là-dessus, c'est quand même qu'à la base, Tsukamoto ne pensait pas faire
exactement
du cyberpunk.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est au milieu de tournage que quelqu'un lui a dit...
C'est ça.
Mais en fait, tu fais du cyberpunk, du quoi
donc, c'est exactement ça.
C'est
et le mec, il a entendu que c'était quand même en vogue. Ça, c'était un truc en vogue qui venait.
Et du coup, il sortait cyberpunk. Le terme cyberpunk à chaque interview.
Et voilà, il s'en est servi pour commercialiser le film. Et bah, bingo, quoi. Et hop, les gens ont d'un coup eu cette étiquette-là. Hop, le film rentrait dans cette case. Ça l'a permis d'avoir, je pense aussi, de cibler où il fallait le distribuer et comment, quoi.
Oui, alors que c'était des thèmes qu'il avait dans son petit essai avant, quoi, finalement.
Mais donc, c'est pas seulement par l'initiative du réalisateur, c'est finalement par l'initiative de, on va dire, des spectateurs et des auditeurs.
Oui, c'est ça aussi.
Qui,
oui, oui.
En fait, Tetsuo se retrouve totalement brandi comme une sorte de manifeste, en fait.
Ouais, cyberpunk. Voilà, ça devient un manifeste cyberpunk alors qu'il a jamais essayé de l'être, en fait. C'est ça qui est...
Et Tsukamoto, donc, comme je disais, il avouera lui-même n'avoir jamais lu du Gibson, ni même ne connaissait pas à la base ce mouvement quand il a fait ce tournage. Donc, c'est vrai que c'est très surprenant. Et par contre, en fait, il est conscient que cette thématique est dans l'air du temps. Et donc, forcément, c'est pour ça qu'il, en gros guillemets, s'approprie de tout ça, quoi.
Mais c'est intéressant qu'un mec, quand même, parce que le cyberpunk, enfin, peut-être vous pourrez redire où la.
Bah, c'est William Gibson.
On est dans les années 80.
Le lieu d'origine des premières œuvres cyberpunk.
Ah, Gibson, peut-être. C'est américain. Donc,
américain. Donc c'est quand même intéressant qu'à cette même époque, un mec qui n'entend pas du tout parler de ce concept-là soit aussi dans les mêmes. Les mêmes angoisses, presque, les mêmes représentations, en tout cas.
Après, il y a des thématiques cyberpunk que l'on retrouve pas forcément dans Tetsuo, parce que dans cyberpunk, en fait, ça beaucoup sur le lien rapport le corps et l'objet, le corps et le métal, mais aussi forcément le lien très dystopique d'un monde où en fait les corporations ont pris le dessus sur les états, en fait.
Ouais, bien sûr. Je pense qu'il n'avait pas conscience de la définition de cyberpunk, mais il avait quand même vu des choses cyberpunk, mais comme Il a dit que son réal américain préféré, c'était Scorsese. Et le deuxième, c'était un de tes amis, c'était Ridley Scott. Donc, ça veut dire qu'il avait vu Blade Runner.
Il s'est étouffé en amont.
Ouais, et j'ai fait exprès. Je voulais dire que le réal, deuxième réal préféré de Tsukamoto, c'est Ridley Scott.
Alors,
ton réal préféré. Et donc, je pense qu'il avait vu des choses cyberpunk. Il a vu des mais même façon, dans le cinéma japonais de l'époque, il y avait des choses aussi. C'était pas comme ça.
Oui, bien sûr.
Mais simplement, il y a aussi une question qu'il n'avait pas conscience d'en faire un manifeste, évidemment, mais il était sur des thèmes qui étaient proches de
Blade Runner. Ça a toujours été une influence.
C'est Ridley, ça passe pas.
Mais même pas, c'est que je me suis. J'avais très bien. En fait, en 86, il a été influencé par Blade Runner et Videodrome pour faire un film qui s'appelle, pardon mon accent, Fuzu Sees No Kaijin, donc un fantôme dans la taille normale, qui était un petit court-métrage, qui est en fait un autre brouillon de Tetsuo, parce qu'en finalement ça parlait d'un acteur principal, qui est d'ailleurs le même de Tetsuo. En fait, l'histoire donc d'un homme qui se métamorphosait un peu à peu en machine de fer. Voilà.
Oui.
Oui, voilà. Ah. Donc il a vu des choses qui sont quand même à rapprocher du cinéma. Mais justement, le fait qu'il soit, ce film soit aussi, je pense qu'un des tours de force aussi de ce film, c'est que c'est un petit film. C'est un film qui coûte quoi, 100 000 dollars. C'est
à peine, même pas.
Dont le fait qu'il utilise la pellicule, donc ça prend déjà pas mal de choses. Mm-hmm. Mais c'est pour moi, c'est un peu le film de garage parfait. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il optimise la totalité de ce qu'il a en main pour en faire un film qui devient justement, comme tu as dit, un manifeste avec une virtuosité qui est folle, c'est-à-dire qu'il quand même il fait un film où comme tu dis il va chercher son décor dans les décharges, il casse les murs de ses acteurs parce qu'il joue chez ses acteurs certaines scènes avec sa perceuse, avec la perceuse spéciale du film, c'est-à-dire que quand tu vois ça, quand tu commences le film, tu t'attends tellement pas à ce que ce film puisse avoir cette portée qu'il a au final, en fait. Quand t'as fini le film, tu dis quand même, t'en crois pas tes yeux. Alors que le film commence, franchement, comme un petit film expérimental où tu te dis, attention, ça va peut-être être un peu dur, quoi. Ouais. Et il y a une virtuosité dans le fait d'amener ce cinéma expérimental dans une forme aussi forte. Et aussi avec aussi des qualités au niveau du scénario. C'est-à-dire que t'as quand même qui te retient. Il y a une musique qui, en plus, est dingue. Mmh. Moi, je trouve que c'est qu'il ait aussi faire aussi bien avec cette économie là, c'est quand même un tour de force qui renforce la force aussi des thèmes qui sont abordés, oui. En fait, et c'est
Un tour de force de pas mal de choses. Il y a beaucoup de générations de cinéastes de différents pays qui ont commencé avec des budgets dérisoires et qui ont réussi à faire des films de cette manière-là. On peut retrouver forcément différents cas en France avec la Nouvelle Vague et même encore aux États-Unis avec, d'une certaine manière, la Nouvelle Vague hollywoodienne, voire même encore la génération un peu de Tarantino.
Oui, mais vu le thème, c'est-à-dire faire un film de Nouvelle Vague sur un couple avec peu de dollars, tu vas aller filmer à la maison en train de se disputer, je sais pas quoi. Là, il fait un film futuriste. C'est le rapport entre son budget et ce qu'il va aborder qui est dingue.
Les ambitions du scénario.
Oui, parce que t'as pas juste une petite histoire de fantôme dans une maison hantée, là. T'es quand même sur un truc dystopique, fou. C'est ça qui est incroyable.
Et encore, parce que les décors, on les voit pas aussi d'une certaine manière. Ouais, ça reste très cloisonné. On est presque sur du huis clos, d'une certaine manière, notamment sur des plans, enfin sur des séquences en fait qui sont tirées à rallonge par rapport au rythme et à l'intrigue qui prend de l'ampleur. Mais pour revenir un petit peu plus sur le côté cyberpunk, en fait, je dirais que la base de ce film, en fait, elle est beaucoup plus reliée à un auteur japonais qui s'appelle Edogawa Rampo, de par sa thématique, notamment sur une sexualité, un érotisme anormal, et notamment aux limites du fantastique, voire de l'horreur. Mmh. Et c'est une chose que l'on ressent à travers tout le film, en fait. Enfin, surtout avec une scène, donc la fameuse scène où, pour revenir un petit peu sur l'histoire de Tetsuo, parce que c'est très compliqué.
Ouais, c'est difficile.
L'histoire d'un homme d'affaires qui se retrouve embriqué dans un accident et qui, du jour au lendemain, se transforme peu à peu en Iron Man, en machine de fer.
Tetsuo étant le nom, un nom japonais qui existe et qui veut dire homme de fer. Quoi,
homme de fer, voilà. C'était en plus une référence, bien évidemment, à ce que voulait faire avec Akira, que l'on connaît, j'ai oublié le nom de l'auteur d'Akira, excusez-moi.
Otomo,
pardon. Donc, c'est aussi une des références, bien évidemment.
Ah oui, c'est vrai, il a appelé Tetsuo vis-à-vis de. Ah, je savais pas. Voilà. Je savais pas que c'était si clair. Ok.
Et donc,
Otomo et Tsukamoto, ils font partie de toute façon de cette même génération que je disais au début, de ces réalisateurs indépendants vraiment très jeunes qui arrivent dans cette époque-là du cinéma japonais. Ils sont Otomo
contemporains.
Aussi, il fait partie de ces jeunes cinéastes.
Mais n'ont pas le même parcours.
Non, pas du tout.
Otomo, il est déjà quand il fait Akira, il a un succès énorme à ce moment-là avec ses BD. Donc il a l'aura pour demander faire le plus gros blockbuster d'animation de l'histoire à cette époque-là. Akira.
Bien sûr.
Tsukamoto, il a fait 4 pubs.
Oui. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire qu'ils sont de ce même contexte-là.
Oui,
quoi. Non,
je pense qu'ils sont de la même génération. Il y a des thèmes quand même.
Voilà.
Clairement.
Voilà. Mais après, tu me vois pas. Alors, le mec de. Le Salaryman, du coup.
Oui, c'est ça, appelé, c'est ça, le Salaryman.
Qui est-ce que Tsukamoto a fait pendant sa pause de 6 ans Non, il a fait même une pause de 6 ans durant le cinéma parce que je ne sais plus trop quoi. Mais enfin. Et du coup, il a fait ce genre de boulot, quoi. Voilà. Et qui est un personnage qui reviendra dans un de ses films plus tard, qui est marchand d'assurance aussi, je sais plus le nom du film.
Bulletman.
Oui, voilà, merci.
Ouais, non, je pense que c'est pas anodin qu'il ait choisi ce personnage. Au-delà, ça le représentait lui dans ce moment où il sortait un petit peu des clous artistiques pour entrer dans une vie un peu plus rangée, où il travaillait beaucoup. Il y a aussi peut-être son père qui était plus, qui bossait, qui était plus. Bon, voilà, on sent un artiste qui a cette peur de de s'accrocher à de quitter finalement son désir artistique pour rentrer dans les clous d'une vie rangée.
Et surtout le contexte social, on le retrouve en fait finalement d'une certaine manière dans le film avec ce personnage là finalement. Bien sûr, le passage body horror du film, ça implique également forcément le contexte social à travers toute l'histoire. L'humanité s'efface pour laisser place à la mécanique. Les accessoires du film en fait proviennent donc comme on disait donc de décharges fouillées par Tsukamoto qui imbriquaient petit à petit avec de l'argile pour en faire le corps de cet homme de fer. L'utilisation en fait de ce matériel de récupération en fait s'évoque forcément à l'écran d'une certaine manière une sorte d'archéologie de nos sociétés contemporaines. C'est-à-dire qu'en fait on a imbriqué des morceaux de télé par-ci par-là avec quelques tiges de métal, quelques structures métalliques.
Oui, des fils.
Comme on le voit à un moment donné pendant tout le film où le personnage de Scoot se retrouve à l'intérieur et donc est confronté avec un autre personnage qui est joué par Tsukamoto. Et finalement, les deux font une espèce de fusion pour en faire une espèce de tank de l'apocalypse en fait. Hein. C'est disons-le comme ça, je ne sais pas.
Voilà, t'as résumé le scénario. T'as réussi à décrire le scénario de ce film.
Mais c'est ce qui est marrant, Tsukamoto a quand même passé très longtemps à écrire son scénario, Tetsuo. Il y a quand même plusieurs années d'écriture derrière. Or, il faut bien avouer que bravo Roland d'avoir réussi à le résumer, parce que le scénario, franchement, c'est pas le premier truc que tu retiens quand tu sors de Tetsuo, tu vois. Tu retiens cette espèce d'énergie surhumaine du film, cette frénésie. Tu retiens ces images choc qui sont vraiment.
Cette ambiance.
Marquante, ouais, cette ambiance, tu vois. Cette manière de filmer Tokyo qui n'a jamais été trop vue avant non plus, tu vois. Mais le scénario, on le met toujours... c'est pas la première chose dont on parle, quoi. Non, mais on aborde le sujet de Tetsuo.
Le scénario, en fait, il est extrêmement secondaire, en fait, dans ce film, parce que ça permet, en fait, au réalisateur de mêler le fond et la forme dans une œuvre assez malsaine, d'une certaine manière. Il veut, en fait... il peint plutôt, en fait, plus une toile qu'un récit.
Oui, voilà, c'est ça.
Et une toile, en fait, qui résonne comme un espèce d'avertissement de la masse critique urbaine en fait.
Et il a supprimé plein de trucs aussi. C'est-à-dire que son scénario, il a préparé, je pense qu'il l'a préparé à sa manière en poussant des scènes, en poussant ses visions sur certaines choses. Mais il y avait un certain nombre de briques qui étaient retirables, rajoutables. À la fin, il a rechangé le montage, il a viré plusieurs trucs qui étaient, sans que ça touche finalement l'histoire, parce que comme tu dis, c'est une toile en fait, c'est une toile de Tokyo, et il y a des choses qui peuvent rentrer, sortir. On n'est pas sur un récit à proprement parler. Donc oui, non, ça c'est sûr.
Chose qui fera, mais on en parlera plus tard, plutôt dans le Tetsuo 2, là où il y aura vraiment un récit beaucoup plus linéaire quoi, dans l'histoire. Mais,
parce que là, on est plus sur de l'expérimental.
Oui, complètement. Et puis surtout, cette volonté de filmer cette contamination de la ville sur l'être humain, quoi. De l'urbanisme sur le corps, quoi.
Ça donne une vision très péjorative de Tsukamoto sur notre monde moderne. En fait, il pense que le monde dans lequel que nous vivons, en fait, est un monde totalement aliéné. Et c'est uniquement par la douleur, en fait, que l'on retrouve les sensations du corps, quoi.
Ouais, mais c'est ça que j'aime beaucoup dans Tetsuo. C'est-à-dire que toute ce néo-humain, on va dire.
Bah, les extrêmes se rejoignent.
Voilà. Tu vois, les formes qu'ils prennent à la fin, on est sur le salaryman en costard, vraiment propre, carré, etc. Et là, on est vraiment sur des formes où ça part dans tous les sens, il y a des imperfections, il y a des irrégularités, il y a des choses qui sont là, qui n'ont rien à y faire. C'est une ode à l'anarchisme dans nos sociétés, tu vois, il y a quand même de ça. Et en même temps, de se dire, est-ce qu'on a envie de ça, quoi, tu vois, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir une perceuse à la place de la teub, quoi, vraiment, est-ce qu'on a vraiment, dans une séquence, mais qui est assez révélatrice, c'est-à-dire que ne pas partir dans le discours, je parle de celle où il va faire l'amour à sa femme, et comme il est déjà en train de changer, vraiment, il a une visseuse à la place de la teub, quoi. Mais tout passe par une séquence, au lieu d'être théorique et de tout passe par cette séquence qui est longue, c'est une très longue séquence dans le film, et qui est tout le temps sur le qui-vive de. Enfin, en tant que spectateur, se poser la question, alors déjà, quand ça va s'arrêter? Et puis surtout, non pas que le film est chiant, mais donc, comment ça va s'arrêter, cette histoire-là?
Et puis, on est sur du cinéma, c'est pas que des idées.
Oui, exactement. Et c'est là qu'il est très fort, Tsukamoto, c'est qu'on sent qu'il a déjà des années et des années d'expérience dans le court-métrage, dans les pubs, etc. Mmh. Et que malgré le peu pas budget qu'il a et le scénario ambitieux qu'il a, eh ben, ça donne un film où tu le regardes et tu dis mais c'est pas possible d'avoir autant d'idées folles dans manière de filmer pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui l'ont pas vu. Rien que les courses-poursuites entre les personnages. Ouais. Je ne peux pas courir avec ma caméra. Je ne peux pas faire de course-poursuite.
Et c'est ça qui est immense.
Qu'est-ce que je fais
à travers
je vais les faire
c'est
avancer
stop
en stop-motion,
ouais,
quoi.
Stop motion,
sur une musique ultra rapide, et ça marche, quoi.
De toute façon, Tetsuo, s'il y a un mot, c'est frénésie, quoi.
C'est frénésie,
ouais. Frénésie dans sa capacité à chaque fois rebondir de scène en scène et de... Moi, c'est comme tu dis, on voit qu'il a de l'expérience dans ce type de projet chaotique, dans ce type de projet vraiment où il faut vraiment se sortir les doigts et tout ça. On sent qu'il, lui, il sent, pour lui, c'est une référence quasiment esthétique, ça. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il doit s'exprimer, c'est de cette manière-là. Il faut tirer de ce projet chaotique quelque chose. Et au fur et à mesure, avec ses courts-métrages, comme tu l'as dit, avec son brouillon, là, les aventures, son brouillon, c'est pas du tout péjoratif.
Les plusieurs courts-métrages qui ont servi de terreau,
c'est
en fait.
Il a gagné une maîtrise. Mmh. Et quand maintenant il fait ses scènes, la scène de la personne, il en fait un moment grandiose. Mmh. Alors que, s'il avait tourné cette scène-là, 4-5 ans avant, ou même s'il avait tourné ça dans les conditions d'un studio, ce n'aurait pas été le même résultat.
Bien
il
sûr.
Fallait que ça passe par ces conditions-là. Et c'est ça, la force du film aussi, je crois.
Et l'une des forces aussi que j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est finalement, on en parlait juste avant, donc de cet aspect cyberpunk, j'en ai parlé aussi un petit peu avant avec cet aspect très body horror sur la transformation du corps, mais aussi forcément, comme on en parlait juste précédemment avec l'auteur Edogawa Rampo, cette idée en fait de travailler également, parce que c'est ce qu'il voulait faire également aussi, c'est de travailler forcément sur le corps et donc forcément sur le côté érotique de l'œuvre. D'où cette œuvre en fait où l'homme d'affaires a envie de sa femme et il se transforme et du coup son objet devient une immense visseuse,
ça dépend dans quel sens tu
ça dépend dans quel sens ça tourne et donc en fait forcément ça montre aussi toutes les particularités aussi d'une certaine manière dans la culture japonaise sur l'érotisme. C'est toujours, il y a toujours une espèce de culture et d'érotisme anormal. Et en fait, ce que veut faire Tsukamoto à travers ce film, c'est une certaine, alors je sais que t'es pas d'accord avec moi, mais une désérotisation de l'acte sexuel. Parce que finalement, au départ, on a pas mal de scènes et de plans qui pensent à une scène très érotique. Et au fur et à mesure, en fait, par la surabondance de représentations de discours sexuels, donc notamment issus de ce qu'on appelle au Japon les pinko-eiga, donc les films érotiques japonais. Et en fait, ça tue totalement le désir dans ce contexte-là. Et en fait, au fur et à mesure, donc le désir du protagoniste se retourne contre lui, et du coup, par la transformation de son corps, en fait, devient une espèce de machine totalement inarrêtable.
Alors, je dirais pas que je suis pas d'accord avec toi, parce que moi, je connais vraiment, pour être transparent avec les spectateurs, je connais beaucoup moins le film que toi. Toi, je sais que tu connais très très bien le réel. Quand je disais, c'est que moi je l'ai vu assez récemment, j'ai découvert et justement j'ai trouvé très érotique le film. Et alors pour peut-être qu'on soit d'accord, c'est peut-être qu'il détourne cet érotisme, c'est-à-dire que peut-être qu'en fait il y a un détournement des codes de mise en scène qui pour moi c'est assez clair quand même qu'il y a des codes du cinéma érotique dans son film.
Totalement.
Et peut-être que il les détourne en fait, voilà. Mais moi non, clairement j'ai trouvé justement que le film est très érotique, donc après il le détourne, il en fait quelque chose, il va dans une direction différente, mais il y a une vraie maîtrise aussi là-dessus, quoi. Donc c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que pour moi il détourne ces codes-là, on va dire.
Moi, ce qui me plaît surtout avec cette séquence, c'est que le fait de rendre vraiment matériel, industriel cet organe, il n'est plus du tout reproducteur surtout. Et en fait, la séquence sexuelle que tu vois, elle peut être érotique, mais en tout cas, elle n'est pas là pour la reproduction humaine, tu vois. Donc parce que l'acte sexuel est pour ça, quoi, tu vois. C'est quand même c'est aussi pour se reproduire. Or là, pas du tout, il est destructeur, t'as raison. Et du coup, ce qui fait que cette ambiguïté existait, là où ça fait dans le cri, là où effectivement d'autres séquences du film ou même déjà dès le début, cette espèce de barre de fer qui est dans la jambe, qui pousse, etc., on est sur des cris où il y a des fois c'est de la douleur, et plus le film avance et plus les cris vont
être
des espèces d'orgasme qui arrivent. quoi. Ouais. Voilà. Et donc là, il est carrément sexuel, Hank. Dans sa manière dont les corps se transforment, acceptent cette nouvelle réalité dans laquelle ils sont, il est carrément sexuel.
Parce que c'est aussi le questionnement de l'humanité, en fait. Peu à peu, le corps se transforme, mais en fait, à quel point, en fait, le personnage est encore humain. Il perd peu à peu son humanité, et en fait, au point de devenir une bête féroce qui agresse sa compagne, c'est ce qui arrive dans cette séquence-là, par exemple.
C'est-à-dire que le seul rapport qu'il y a entre un homme et une femme dans le film, ben, il n'y a absolument rien d'amoureux, quoi. Ouais. Non, et puis surtout que, enfin, là où ils sont en couple, etc., donc tu pourrais te dire, ben voilà, un moment d'amour qui n'existe pas, c'est-à-dire que le plaisir est du coup très personnel. Il ne peut que être intime dans cette nouvelle société qui nous arrive, quoi. Ce qui rejoint, enfin, avec d'autres films, même le Tetsuo 2, d'individualisme, quoi, ouais. Tu vois, qui est là. Sauf le seul moment où deux personnages fusionnent, comme tu le dis, c'est pour créer une arme de guerre qui va détruire le monde. Voilà, donc on est sur du pessimisme absolu, quoi, vraiment,
oui,
sur, voilà, sur cette ville Tokyo, ce grand urbanisme qui est en train d'aliéner l'être humain, le transformer en une espèce de bête 2.0 d'architecture et pas technologique, en fait. C'est ça aussi Tetsuo qui fait sa spécificité par rapport à d'autres œuvres cyberpunk, c'est-à-dire qu'il est purement urbain et dans le sens architectural, quoi. C'est-à-dire que c'est pas
il a pas des ordinateurs,
il est plus dans la tête, non c'est librement des barres de fer et des trucs de béton qui lui poussent dessus, quoi. Oui, voilà. Donc c'est en ça que je le trouve aussi plus intéressant, quoi.
Et en plus, c'était des thématiques qu'il avait déjà arborées avec ses précédents courts-métrages, comme notamment aussi l'histoire d'un jeune garçon qui a un poteau électrique sur le dos.
Oui.
Mais ça, c'est...
Oui, voilà,
c'est...
Et puis il filme Tokyo.
Un lampadaire.
Non, c'est un poteau électrique.
Ah d'accord, ok.
Et puis il filme des rues de Tokyo qui existent bel et bien, et les ordures sont là, et il est comme ça, c'est-à-dire que voilà, tout ce pendant nouvelle que tu parlais, il est là, quoi, de se dire, eh ben voilà, je ne fais pas que de la fiction, c'est-à-dire que voilà ce que sont ce que c'est Tokyo, quoi.
C'est ça aussi, en fait, l'autre personnage principal du film, comme tu le dis, c'est Tokyo, en fait. Tokyo, c'est une véritable jungle urbaine, et il le montre de façon, en fait, très très représentatif, très très graphique. Les nouveaux habitants, en fait, doivent s'adapter pour survivre et ne faire qu'un avec la ville, tel le héros, en fait. Et si Tetsuo, en fait, traite dans les règles de l'art l'influence de la technologie au niveau de l'individu, en fait, il va plus loin en traitant, en fait, cette influence au niveau de la civilisation et des rapports étroits entre individus.
Bah, c'est un thème qui revient souvent au Japon dans ces années-là. Et y a Akira, y a plein d'autres choses. C'est sur cette évolution de la ville incontrôlable qui provoque une évolution incontrôlable de ceux qui y vivent. Et qui passent par leur mutation, telle que la mutation de la ville s'opère, bah, y a du déchet quand il y a une ville qui mute aussi rapidement, voilà. Ce déchet, il va se retrouver sur...
Et cette force-là, elle est amplifiée par la mise en scène, mais aussi par la musique de Shuichi Kawa, qui à la base, en fait, était un compositeur qui est joué dans pas mal de groupes, notamment d'industriels et compagnie. Il faisait des percussions sur des objets de métal, et c'est comme ça que Tsukamoto l'a contacté, parce qu'il l'avait vu dans un concert, et lui expliquait s'il était intéressé pour faire un film, juste un film, Tetsuo, finalement, il sera le compositeur de Tsukamoto pendant de nombreuses années.
À part deux films, il a tout fait avec lui, ouais. Voilà.
Et il a dit qu'il fallait que la musique, ce soit du métal qui...
Il fallait qu'en fait, voilà, c'est ça. En fait, il fallait que ce soit
un bruit de métal
des images et des sons hyper viscéraux. Et tel que doit représenter Tokyo, et c'est ce qu'il fait, en fait.
Ouais, bah, la musique, de toute façon, elle est... on l'a entendu en tout début d'émission, il y a ce thème qui n'est pas tant un thème mélodique que rythmique, et qui est vraiment aliénant pour ton cerveau quand tu l'écoutes, c'est-à-dire que tu as un truc vraiment répétitif, métallique.
Il veut pas être sympa.
Non, il veut pas être sympa, mais c'est-à-dire qu'il est dans... Enfin, de toute façon, elle est tout à fait dans la frénésie du film. En fait, je pensais là, dans ce que tu disais sur comment la ville, à force de se transformer, etc. C'est-à-dire que même l'aspect dystopique du cyberpunk, pour moi, elle y est un peu dans Tetsuo aussi. C'est-à-dire qu'on ne te parle pas de grandes corporations capitalistes qui mènent le monde parce que rapport d'argent, rapport... Mais l'avenir qui fait de ce nouveau société qui arrive est dystopique à mort chez Tetsuo. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore au moment où ça a basculé, on est presque au moment où ça va basculer, où les hommes sont en train de changer, etc. Et on se dit, on peut se dire que 20 ans après les événements que tu vois dans Tetsuo, on peut en arriver là, tu vois. Donc, on a quand même ces mêmes codes qui sont là, ces mêmes thématiques Alors qu'on est sur... enfin, il y a d'autres œuvres, on est d'accord. Mais...
Là, il y a une économie de la dystopie.
Oui,
aussi.
Bien
C'est-à-dire
sûr.
C'est-à-dire que là, de toute façon, il n'a pas les moyens de se dire « Je vais aller filmer des
bullies.
Je ne vais pas faire Blade Runner, de toute façon. Je n'ai pas les sous, je n'ai pas le machin. »
Ben non, bien sûr.
Mais à sa manière, il aborde ça. À sa manière, il traite de cette évolution de l'homme au cœur de son endroit de vie et je trouve dans des métaphores et dans des choses comme ça qui sont vraiment très 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 réussies et qui en fait le film manifeste, c'est-à-dire que ça devait être, dans tous les films cyberpunk, c'est le moins cher qui a été fait. Surtout pour un genre qui a tendance à être de la science-fiction, ouais. Qui a tendance à être vraiment plutôt
demander beaucoup pour
qui,
être
qui pour souvent c'est les livres de cyberpunk qui sont adaptés demandent tu dis ouais ça peut que les Américains qui font ça parce que ça va demander vraiment pour que la vision soit réelle pour le spectateur qu'elle fonctionne, ça demanderait beaucoup d'argent. Lui il prend le truc inverse, il prend et il s'y tient, c'est ça qui est aussi assez fort. Il prend le
Et puis il est malin de pas convoquer les mêmes imageries qu'on a habituellement sur ce genre cyberpunk, surtout. C'est-à-dire que c'est pas tant de la SF qu'ils sont en train de me raconter que vraiment un film de contamination, quoi.
C'est ça, ouais.
Et un body horror en fait, complètement.
Exactement. Mais surtout en fait, c'est l'environnement industriel en fait, gangréné par cette espèce de métal, de cuivre, de tous les matériaux en fait qui rend en fait d'une certaine manière volontairement laid les images que l'on voit à l'écran, mais en plus c'est surtout être terriblement austère et étouffant. C'est ça la force qu'a voulu montrer Tsukamoto à travers ces images de Tetsuo et ces images de Tokyo, parce qu'en fait cela permet d'aboutir à une ambiance non seulement cauchemardesque mais aussi d'une certaine manière claustrophobe. C'est-à-dire on a beaucoup de plans où en fait c'est juste un personnage qui est vraiment soit dans son petit appart, soit en fait il y a un côté métaphorique où en fait on voit que son corps humain est bouffé par le métal à l'intérieur, ou en fait qui va l'englober.
Ouais.
Et en fait, au fur et à mesure du film, dès qu'on sort en extérieur, on remarque en une ville en fait complètement morte, vidée de ses habitants, et de manière paradoxale, en fait, l'individu ultra connecté, il est isolé contre son gré, et il n'existe que de manière connectée. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement fort de la part de Tsukamoto, en fait, c'est qu'il va en fait jouer sur le contraste absolu entre les deux passages là, quoi.
Ouais, ce qui crée un imaginaire hors champ assez incroyable, quoi.
Ouais,
dans le film.
C'est ça aussi, c'est qu'il a réussi à donner vie à cette un peu quand tu vois on a parlé d'Akira tout à l'heure, le fait que dans Akira il y a une transformation aussi de Tetsuo qui devient électronique, qui mute comme ça. Je trouve que c'est très fort dans cette économie là que Tsukamoto il réussit à avec cette transformation différente, tu vois, mais c'est nouveau, c'est-à-dire que j'ai pas d'exemple de ce type de transformation humaine en machine comme ça dans d'autres films aussi organiques comme ça, c'est assez, je crois que c'est assez nouveau quand il fait ça aussi, d'où la surprise, d'où aussi le succès
du film,
d'où la force du film, quoi. J'ai pas de d'autres exemples. Il y en a peut-être, mais ça c'est devenu aussi un film assez pas iconique,
emblématique, hein, porte-étendard
de ça vis-à-vis de cette réussite là à mettre en image de manière efficace, c'est pas le terme, cette transformation humaine en quelque chose d'un futur redouté, quoi. Là où l'animation pouvait y arriver, mais où les films j'ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent en tête.
Et surtout en fait ce qui est peut-être l'une des forces aussi de Tsukamoto, c'est que auparavant on avait toujours pas mal de films soit de science-fiction qui travaillaient sur en fait l'évolution technologique qui était forcément valorisante pour l'humanité. Ici en fait non, Tetsuo ça représente en fait la perte de la biologie de l'humanité au profit de la technologie et des machines comme une chose inévitable. Donc en fait là en fait ce serait comme si la prochaine étape de l'avancement de notre espèce, en fait, est vouée forcément, pas un échec, je dirais, mais forcément est vouée contre notre gré. Et en fait, c'est le fait que cette évolution soit si sombre et monstrueuse qui rend, en fait, je dirais, d'une certaine manière, le film totalement fascinant.
Plus, je pense qu'il est resté dans l'inconscient collectif comme un film d'un réalisateur avec une liberté absolue, quoi.
C'est une œuvre de cinéma composite, disons-le très clairement.
Je pense que c'est le film que tous les jeunes réalisateurs qui sortent d'école ou qui sont encore rêvent de faire. Moi, c'est ce que je me suis dit en voyant le film. Je dis putain, le film réussit à à passer toutes les embûches du fameux petit projet un petit peu dingos ouais. que t'as quand t'as 20 piges. Bon, alors, il était un peu plus âgé, mais il avait aussi passé plusieurs années à travailler à côté. Mais il arrive vraiment à faire que ce projet qui est vraiment chaotique et casse-gueule dans son écriture à tous les niveaux, mmh. il arrive à en faire un film dont on parle 30 ans après et c'est quand même un tour de force assez incroyable.
C'est énorme, ouais.
Oui, c'est un réalisateur en fait qui arrive à accoucher d'une œuvre en fait déjà terriblement fusionnelle de plusieurs genres et aussi surtout en fait ça travaille autant en fait sur ses influences que l'on peut signaler par exemple dans l'expressionnisme allemand, hein, parce qu'il le dit même dans pas mal d'interviews, notamment une interview avec Jean-Pierre Dionnet qui parlait notamment donc de Metropolis, et d'autres forcément du manga, parce que c'est forcément relié avec sa culture et la culture contemporaine japonaise, mais surtout donc forcément l'expérimental, avec le travail de la mise en scène, notamment les effets en stop motion. C'est des choses que d'ailleurs vont reprendre beaucoup, beaucoup d'autres réals, parce que finalement c'est un cinéma en fait qui est pas... qui va être influenceur aussi de mmh, pas bah mal oui, de cinéastes contemporains. Bien, bah oui. Et c'est l'une des forces, en fait...
Pas que le cinéma, d'ailleurs.
Hein, oui, du clip, de la pub... de tout, en fait, hein, mmh. de beaucoup de choses. Et c'est ça, en fait, la dernière partie de notre émission, parce que finalement, c'est aussi montrer à quel point, en fait, Tsukamoto était Tetsuo, en fait, un héritage assez complet et influent. Parce que donc, finalement, donc, en juin 89, donc, Tetsuo remporte, donc, comme on disait, donc, le meilleur prix du Fanta Festival de Rome.
Fanta, comme la boisson.
Fanta Festival. c'est relié en... Enfin, il n'y a pas de pause, hein, c'est Fanta Festival, voilà.
Fanta.
Parce que c'est film fantastique.
Film ah non, c'est pas un film sponsorisé par Fanta. Ça aurait été incroyable que Tetsuo gagne le prix du film de Fanta ou de film Coca,
tu
vois.
Secoue, frénésie, tu secoues le Fanta.
Et donc, il sort le 1er juillet au Japon, la même année, et c'est donc dans une salle ouais. à Tokyo. Et c'est considéré comme une des salles de séance de minuit comme on avait comme l'avait par exemple New York dans les années 70. Et donc c'est 3 mois salle comble.
Mmh.
Donc le film forcément prend une ampleur gigantesque en termes d'influence d'aura, notamment dans le public jeune. Et en fait, c'est surtout ça l'une des forces de ce film, c'est qu'en fait, il va poursuivre sa montée progressive en objet culte à travers les sorties donc cassettes vidéo, bien évidemment, sur la péninsule et en dehors, et notamment en passant même par les salles US. Et ça, c'est quelque chose de très très rare.
Mais c'est marrant parce que en y repensant, j'avais vu passer ça. C'est un peu comme Eraserhead. C'est-à-dire ouais. que ouais. C'est ouais. un film qui a été ouais. fait dans des économies certainement assez proches.
Alors oui, Eraserhead, oui, ça a été un film très compliqué et très dur à faire
mais
pour
film,
les films.
Un peu de fin d'études aussi, tu vois, un petit peu.
C'est un mix des deux.
Voilà. Ouais. Et un film qui a eu une aura aussi par les séances de minuit, en passant par les festivals.
Exactement.
Et puis, donc
qui parle d'aliénation.
Qui parle d'aliénation. Mais avec aussi une réussite esthétique dingue.
Bien sûr.
Et qui annonce quelque chose comme ça reste un film culte. Et ces séances de minuit sont pas pour rien là-dedans. Mmh. Le phénomène cassette, bien sûr, est très présent, mais l'aura de ces films qui passent... parce que je crois que c'est lui dans une interview qui dit « Oui, après, on avait un succès dingue pour l'essence de minuit, parce que heureusement, notre film n'est pas sorti pour l'essence de midi, 16h, 18h, oui. parce que le film aurait pas, il serait pas resté aussi longtemps en salle aussi, parce que oui, il y avait ce truc
de ce public
qui vient se voir pour des films comme ça, un petit peu inédits, un peu rares, et Tetsuo, c'est ça en fait.
C'est totalement ça, et finalement ça a permis en fait de lui donner une certaine aura encore plus supplémentaire, encore plus forte, et pas seulement d'être un objet simplement culte en plus pour Tsukamoto, parce que d'une certaine manière ça permet enfin à ce réalisateur de se faire connaître, et bien au-delà des limites du cinéma indépendant. Et d'ailleurs son projet suivant après, ça sera un film donc de Major, Hiruko the Goblin. Alors c'est un petit film pareil, hein, c'est pas un gros budget non plus, hein, reste un film de niche on va dire japonais, mais c'est un film produit par une Major, donc il devient pas seulement un réalisateur indépendant, il devient également son propre réalisateur de commande, mmh. d'une certaine manière, donc il se fait donc reconnaître. Et finalement, il va quand même revenir après Hiruko the Goblin en 91, il va revenir dès l'année suivante, donc en 92, avec Tetsuo 2, donc The Body Hammer. Donc il va reprendre un peu sa première version, mais il va là un peu la peaufiner en termes d'écriture. Plus de linéarité, et donc en travaillant en 35 mm couleur, notamment.
Sur une histoire de fille kidnappée,
c'est ça.
Et qui l'ont retrouvée.
Il voulait travailler notamment sur la questionnement du de la transmission. Que ça soit entre père, fils, mère, fille, etc. etc. Mmh. Donc l'idée de transmission du gène également. Et donc en fait, il a fait une version un peu plus, on va dire, en gros guillemets, grand public, parce qu'il ne voulait plus être catalogué comme réalisateur underground. Mmh. Voilà.
Et alors, est-ce que le Tetsuo 2 n'est absolument pas un film populaire.
Non, ça a été un échec commercial.
Il a été rattrapé par ses démons.
Puis pas familial du tout non plus. C'est-à-dire qu'il est underground.
Il peut pas s'en empêcher.
T'as beau raconter l'histoire d'un père ou grand-père, je sais plus, qui cherche sa fille disparue avec drame familial. Bah non, tu vois, c'est Tetsuo, quoi. Il y a un moment donné.
L'underground est tombé dedans.
Mais oui.
Il peut pas. Tu peux pas devenir comme ça, faire du film de studio.
Il est intéressant Tetsuo 2 parce que c'est-à-dire que du coup au niveau du scénario, bon, moi je le trouve du coup comme plus linéaire, un poil plus convenu et donc moins intéressant. Par contre, il y a des séquences où il va encore plus loin dans la représentation de l'homme-machine, tu vois. Et avec plus forcément cette frénésie du premier, mais avec quelque chose qui est peut-être un peu mieux maîtrisé, qui veut calmer un peu les... Il y a quand même des séquences qui sont plus calmes que dans le Tetsuo, mais ce qui est montré à l'intérieur, c'est il va mille fois plus loin encore.
Et est-ce que les studios lui ont au moins permis financièrement de pouvoir avoir... des effets, des budgets pour que sa vision soit peut-être plus ample.
Alors,
vis-à-vis de...
Pour le 2, oui. Je dirais même que ça se voit peut-être même un petit peu plus aussi encore avec Tetsuo The Bullet Man, donc le troisième volet qui est sorti en 2009, qui a d'ailleurs été présenté à Venise, qui est aussi forcément le film, je pense, aussi le moins représentatif de ce que veut faire Tsukamoto, parce qu'en fait, c'est un film encore un peu plus, on va dire... polissé dans son écriture et il a peut-être une certaine recherche de la complaisance. Après, c'est un réalisateur, c'est ça qui est très intéressant avec Tsukamoto, parce que finalement en fait il est devenu une icône du cinéma underground japonais, alors qu'il était à la base très influencé par deux choses, donc forcément ce qu'on appelait le film de monstre, le kaiju, donc notamment avec des trucs comme Godzilla, où il avait fait notamment des pièces et des séries comme Ultra O, et d'une autre manière en fait à partir de ses études il a commencé aussi à regarder le cinéma plus traditionnel japonais, notamment Kurosawa.
C'est un fanat de Kurosawa,
et d'ailleurs ça s'est vu dans certains de ses films récents.
Ah ouais.
Où il a fait du Chambara. Donc voilà.
Ah oui, alors c'était bien, c'était.
C'est sympatoche. C'est sympatoche, Killing. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais c'est sympatoche. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un réalisateur qui a toujours voulu travailler sur différentes facettes. Parce que finalement, quand on voit après Tetsuo 2, il a fait notamment également Tokyo Fist et Bullet Ballet. C'est des films qui vont encore travailler sur l'univers urbain très tokyoïte, très bleuté, très âpre sur l'humanité, et une humanité qui a envie de se battre en fait d'une certaine manière. Donc c'est pas très surprenant. Gemini, par exemple, donc sorti en 99, là on est sur un film beaucoup plus sur sa passion pour Edogawa Warampo en fait. D'ailleurs, je crois que c'est une adaptation d'Edogawa Rampo, excusez-moi, et qui est d'ailleurs encore un film de commande, et qui est un film forcément un peu basé sur le côté l'amour interdit. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un réalisateur qui est très complexe, parce qu'en fait, on le voit et on le façonne tel que l'est par Tetsuo, mais en fait, c'est un réalisateur très hétéroclite.
En fait, c'est sa malédiction aussi à Tsukamoto, c'est-à-dire qu'il a...
Il fait tellement bien,
c'est son premier
fort,
film distribué, effectivement, donc considéré comme son premier film, voilà. Et il a fait plein de trucs après, mais les gens, c'est Tetsuo. C'est-à-dire que, et même les gens connaissent plus Tetsuo que Tsukamoto, s'ils connaissent Tetsuo. Enfin, voilà, c'est un peu
ça. Et Tsukamoto également est un acteur, hein, il faut pas l'oublier.
Ouais, bien sûr. Mais bah, alors ça.
Il a joué notamment dans Ichi the Killer de Takashi Miike. Et même dans Silence de Scorsese.
Ouais, son dernier,
j'ai vu
c'est
que
dans Silence.
Scorsese l'avait pris pour Silence.
Mais voilà, c'est-à-dire que c'est même pas, ça dépasse en fait son film à lui. C'est-à-dire qu'on est
son
sûr,
film
comme
le
on
dépasse.
Disait,
ouais.
Ça, ouais, c'est ça. Ça le dépasse complètement. C'est-à-dire tout Tetsuo pour le public de ce cinéma underground, c'est la référence. Ouais. C'est une idole, ce truc, quoi. Donc voilà, ils connaissent Tsukamoto, mais je suis même pas sûr que beaucoup aient continué à voir d'autres films de Tsukamoto, parce que voilà, on est sur une des bibles du cinéma underground, quoi.
Ouais, pour terminer un petit peu tout ça, j'ai envie de dire, enfin un petit peu tout ça, on va dire un peu vulgariser la chose, c'est un tout petit film en fait qui a une immense répercussion. mais une répercussion phénoménale. Tarantino, par exemple, voulait carrément faire une nouvelle version, The Flying Man, avec donc Tsukamoto également dedans. Et ça a influencé bon nombre de cinéastes, on l'a pas dit assez, mais par exemple des gars comme Aronofsky, des gars comme Ian Kunen aussi. Ian Kunen, il suffit de voir par exemple Gisèle Pétrolette, un de ses courts-métrages, c'est totalement du Tsukamoto. David Fincher aussi, d'une certaine manière, il faut pas l'oublier dans son travail de la publicité, ça a énormément travaillé sur sa vision de cinéaste par la suite. Ça raconte en fait à la base aussi d'une certaine manière, il faut pas l'oublier, c'est que ça parle à beaucoup de gens, Tsukamoto et Tetsuo, et surtout en fait dans le, on va dire dans le public jeune japonais, parce que ça raconte à la base la difficulté de vivre dans un monde moderne, et c'est pour ça qu'il a aussi bien marqué en fait toute une génération de cinéphiles.
Ça parle à beaucoup de gens et ça parle aussi beaucoup de réalisateurs. Oui. Parce que je pense qu'il a le respect, clairement, oui, Tsukamoto, des réalisateurs qui, dès qu'ils ont vu ce film-là, il est des nôtres, quoi. Tu vois,
c'est clair. C'est... Et encore les réalisateurs d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, voilà.
C'est un cas d'étude, incroyable. Voilà, si tu veux
quand
faire
t'es
du
jeune,
cinéma.
Que tu t'intéresses au cinéma, jette-toi sur ce film, clairement.
Ah oui, on peut que vous le conseiller. D'ailleurs, l'une des façons de décrire Tsukamoto et son travail, il disait donc, si vous n'avez jamais découvert Tetsuo, je vous le conseille de le regarder avec la lumière éteinte, vous rapprocher le plus près possible de l'écran et de mettre le son à fond.
Bien sûr, ah, mais bien sûr. Ah bah ouais. Carrément, au casque, le son.
C'est ça. Pour le coup, donc, on va s'arrêter là-dessus. On revient, donc, on va laisser avec un morceau issu du film composé par Shu Ishikawa. C'est vraiment un compositeur qui était assez intéressant, qui est malheureusement décédé en 2017. Et donc, on revient la semaine prochaine avec un tout autre sujet d'émission. Merci à toi, Sébastien.
Merci.
Merci à toi, Jonathan, pour votre expertise sur ce film. Et donc, on revient la semaine prochaine. Ciao, tout le monde.
Salut.